in the world right now. Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Tell the promoter we need more seats. We just sold out all the floor seats. Take me on a trip,
I'd like to go. Et voici quelques des gros titres récents. Le Québec est entré dans sa 7e vague de la pandémie de COVID-19, selon le directeur de santé publique Luc Boileau. Pendant le mois dernier, la province a connu une croissance de 50% en hospitalisation en raison du COVID-19, enregistrant maintenant plus de 1500. Cette vague serait la première au Québec après la suppression de presque tout genre de règles sanitaires. Et plus de 500 habitations à loyer modique à Montréal sont actuellement vides parce qu'ils subissent des rénovations. Cependant, la ville fait face à une crise de logement. À partir du 2 juillet, 118 familles montréalaises n'avaient pas de logement. Et le championnat nord-américain de danse irlandaise a eu lieu à Montréal la semaine dernière au Palais des Congrès. L'événement comptait plus de 4000 compétiteurs qui tentaient de se qualifier pour le championnat du monde. Et le Festival international de jazz de Montréal s'est terminé le samedi soir. Pendant plus d'une semaine, il a mis en valeur des musiciens prometteurs ainsi que des vedettes indiscutables en plus de 350 concerts. 2/3 de ceux-ci étaient gratuits. L'acte de fermeture était une performance par le groupe The Roots avec des dizaines de milliers de spectateurs entassés dans la place des festivals.
The following is a previously broadcast program.
Au sommaire, cette semaine.
Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à l'émission Dignité Noire sous CKIA 88.3 FM. Nous sommes, aujourd'hui c'est quoi? Le 4 avril. Le 4 avril 2022, je suis en compagnie de mon fidèle compagnon Brice. Salut Brice. Toujours Brice est à la mise en onde, un peu là au départ. Brice est à la mise en onde aujourd'hui, donc mon nom est Mbaye. Bayadi, mais vous pouvez m'appeler Mbaye. Je suis avec vous jusqu'à 20h. Désolé pour le petit retard parce qu'on essayait de joindre notre invité, notre première invitée, Madame Aïssa Maïga, la célèbre actrice que vous connaissez probablement, ceux qui ont vu le film Bienvenue à Marley Gomo. Il a déjà tes yeux, le garçon qui dompta le vent. Alors on essaie, elle est ici dans le cadre du festival Vue d'Afrique pour promouvoir son premier long métrage qui s'appelle Marcher sur l'eau. Elle est à Montréal. On a essayé de la joindre là aujourd'hui parce qu'on avait booké une interview avec elle aujourd'hui là, mais on n'arrive pas à la joindre. Sûrement qu'il semble qu'elle a une activité à Montréal en même temps, qu'elle, l'activité n'est pas encore terminée. Donc on espère qu'elle nous rappellera quand elle va finir son activité. Sinon, les stars se font attendre. Alors on va l'attendre. Elle sera à Montréal, à Québec, mercredi par contre. Mercredi à 18h si vous avez du temps. Son documentaire sera projeté au Musée de la Civilisation. C'est une collaboration entre le Festival International Cinéma Vue d'Afrique et l'Institut de la Francophonie pour le Développement Durable situé sur la rue, sur Chemin Sainte-Foy, hein, c'est ça je pense. Donc à 18h, mercredi prochain, au Musée de la Civilisation, Madame Aïssa Maïga sera là présente pour son film Marcher sur l'eau. Alors, vous voulez y participer, c'est simple. N'allez pas sur le site des Musées de la Civilisation là, parce qu'il n'y a rien là-bas, vous ne pouvez pas réserver. Donc, si vous voulez y participer, écrivez plutôt. Envoyez un courriel à l'adresse suivante. S-I-C, S comme Sylvie, I comme Isabelle, C comme Claire, point, donc S-I-C, point, I-F-D-D pour Institut de la Francophonie pour le Développement Durable. Donc, je répète, S-I-C, point, I-F-D-D, @ francophonie.org. Donc, n'hésitez pas, il n'y a que 30 places de disponible. Alors, précipitez-vous, sautez sur votre courriel, envoyez un message, réservez votre place pour mercredi à 18h. C'est une projection de son documentaire d'une 1h20, suivi de conférences, débats, etc. Alors, sur quoi porte son documentaire? Très intéressant, le documentaire. Moi, je l'ai regardé ici, hier, en vue de la préparation de l'émission. Là. Je me suis tapé 1h20 hier. J'ai fini d'ailleurs tard, parce que, comme je vous respecte beaucoup, je veux d'abord regarder le documentaire avant de réaliser l'entrevue dessus. Alors, Marcher sur l'eau, c'est le premier long métrage de Madame Maïga. Ce long métrage aborde la question du manque d'eau en Afrique de l'Ouest, en relation avec le réchauffement climatique. Donc, le film se déroule au nord du Niger, dans le village qui s'appelle Tatiste. En fait, c'est pas un village comme tel. Hein. C'est pas comme un village qu'on connaît d'habitude. En fait, c'est un campement de d'éleveurs. C'est pas, c'est ce qu'on appelle parfois le férique. Là. C'est un campement d'éleveurs, hein, n'est-ce pas? Les éleveurs, peuvent, ils bougent de temps en temps. Donc, ils peuvent rester quelque part pendant 6 mois, 1 an, puis bougent ainsi de suite. Donc, pas besoin de faire de gros villages. C'est des fériques. Donc, ce férique est victime du réchauffement climatique et se bat pour avoir accès à l'eau. Chaque jour, une dame, une jeune dame qui s'appelle Oulaye, ah, c'est, elle est magnifique, c'est une, un personnage tellement attachant. Alors, cette dame, cette jeune dame de 14 ans qui s'appelle Oulaye, comme d'autres jeunes, elle marche, elle parcourt des kilomètres pour aller puiser de l'eau. L'eau qui est bien sûr essentielle à la vie du village. On est ici au nord du Niger. Alors, figurez-vous que le Niger, c'est déjà dans la bande sahélienne, un pays sahélien presque désertique. Alors, le nord du Niger, on est à la lisière du Sahara. Il n'y a pas d'eau dans ce coin-là. Il pleut 2 mois par année. Figurez-vous, là, sur 12 mois, il pleut 2 mois par année. Donc, cette dame, Madame Oulaye, elle parcourt plusieurs kilomètres pour aller puiser de l'eau. Cette tâche quotidienne les empêche, entre autres, d'être assidus à l'école. Parce que c'est des jeunes. Hein. Elle a 14 ans. Vous avez d'autres jeunes de 8, 9, 10 ans, etc. Il y a une école dans le Féric, là. Il y a une école avec... L'enseignant est tellement attachant là. Écoutez, mercredi, allez voir cette interview, ce long métrage. Moi, hier, je voulais regarder 40 minutes, puis continuer la suite aujourd'hui, mais bah, je l'ai regardé jusqu'à 1h du matin là. Tellement c'était attachant. Donc, étant donné qu'ils sont, les enfants sont occupés par la corvée d'eau, là, ils doivent aller chercher de l'eau qui est à plusieurs kilomètres du village. Alors, ils sont pas assidus à l'école. Ou alors, même quand ils viennent à l'école, bah, ils s'endorment parce qu'ils ont tellement travaillé à puiser de l'eau que les enfants sont épuisés, n'est-ce pas? Manque d'eau, donc. Et il manque aussi de nourriture, il manque des vitamines, parfois les enfants sont épuisés. Alors cette tâche quotidienne les empêche de faire plein de choses. L'absence d'eau pousse également les adultes à quitter leur famille chaque année pour aller chercher au-delà des frontières les ressources nécessaires à leur survie. Dans le documentaire, on va voir le papa qui a un cheptel de bœuf va partir pour 8 mois. Figurez-vous, là, il ne voit pas ses enfants pendant 8 mois. Les enfants ne voient pas leur papa pendant 8 mois. Le papa part à la recherche du pâturage pour le cheptel. Donc, il pleut 2 mois par année, il reste là 2 mois avec le troupeau. Les 2 mois passés, bah, il s'en va pendant quoi, 10 mois. Ils vont dans différents pays. Hein. Écoute, ceux qui connaissent le peuple, là, ils peuvent aller au Niger, au Burkina Faso, ils vont jusqu'au Tchad et puis ils reviennent. N'est-ce pas? Et la maman aussi, il n'y a pas de travail dans ces fériques-là. Figurez-vous, un férique du désert, il n'y a rien à faire. Quand il ne pleut pas, il n'y a rien à faire dans le fond. Pas d'agriculture, il n'y a que l'élevage. Alors la maman, pour avoir de l'argent, qu'est-ce qu'elles font? Beaucoup de femmes de ce férique vont dans les villes, n'est-ce pas? Pour être des ménagères, travaillent dans des foyers. Puis la maman de Oulaye, elle a dit non, elle ne veut pas faire ça. Pour son honneur, elle ne veut pas faire ça. Parce que quand elles vont en ville travailler dans les familles, on les viole, on les maltraite, on les tabasse, on ne les respecte pas. Donc la maman de Oulaye dit non, pour ma dignité, je ne veux pas aller travailler dans une famille pour qu'on me méprise. Je préfère vendre des remèdes médicamenteux. Donc, par exemple, elles vont écraser les... Elles vont écraser les racines d'acacia, par exemple les écorces d'acacia, pour aller vendre parce que ça aide à guérir le mal de ventre, etc. Donc sa maman va vendre ça en ville, puis pendant plusieurs mois. Figurez-vous, la maman quitte le Niger, il va au Togo, il va au Nigeria, etc. pour vendre ces remèdes-là. Donc ça fait plusieurs mois. Les enfants sont tout seuls, tristes, etc. Fait que c'est ça la réalité là, c'est ça la réalité de ce film là que je vous invite vivement à voir. Je vous raconte pas tout le documentaire là, c'est intéressant. Il faut regarder ça mercredi, réservé à l'adresse suivante francophonie.org. Brice, est-ce qu'on a notre invité en ligne? Parfait. Alors Madame Aïssa est en, pour 2 minutes. Madame Aïssa Maïga est en ligne. On va la prendre. En honte bientôt. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation parce qu'elle a beaucoup d'activités à Montréal, mais elle nous a fait l'insigne honneur d'accepter notre invitation, l'invitation de Dignité Noire. Fait que ça nous fait beaucoup plaisir. On va la mettre en onde bientôt. Elle sera en onde dans 2 minutes. Hein. Brice, tu me fais signe quand elle sera en onde. C'est bon? Bonsoir, Madame Aïga.
Oui, bonsoir.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, et vous?
Très bien, c'est un insigne honneur de vous recevoir à l'émission Dignité Noire. Ça nous fait énormément plaisir.
Merci beaucoup de m'accueillir.
Ça, d'autant plus que je suis un de vos fans. J'espère que je vais être objectif. Alors, je disais, dans le cadre du 38e festival, vous êtes ici dans le cadre du 38e festival international des films cinéma vue d'Afrique.
Oui.
Mercredi, vous serez à Québec pour présenter votre documentaire que j'ai commencé à présenter à nos auditeurs. Mais avant tout, peut-être un petit mot sur vous. Hein. S'il y a encore des gens qui ne vous connaissent pas, je dirais un petit mot quand même sur vous.
Oui, bien sûr.
Alors vous, vous n'êtes plus à présenter. Vous avez réalisé plusieurs films. Vous êtes révélé dans le film Les poupées russes de Cédric Clapiche. Vous avez joué dans le film Il a déjà tes yeux. Ou Bienvenue à Marley Gaumont. Moi, j'ai regardé ça quand j'étais étudiant en France. Là, ça m'a fait rigoler comme pas deux. Vous avez aussi joué dans Le garçon qui dompta le vent, plusieurs films. En 2021, vous avez tourné dans la série britannique The Fear Index et les longs métrages français d'Andrea Bescon et Eric Métayé, Quand tu seras grand et Néné Superstar de Ramzi Ben Slimane. Et là, vous réalisez votre propre long métrage, Marcher sur l'eau.
Tout à fait.
Qui pose la question de réchauffement climatique, de manque d'eau en Afrique de l'Ouest. Le film se passe au Niger. D'habitude, on vous connaît pour la question de justice raciale, pour la représentation des femmes dans les milieux de l'art, etc. Là, vous abordez un autre sujet. Vous militez pour la question de l'eau, pour l'environnement. Est-ce que c'est un nouveau champ de bataille que vous embrassez?
Alors, ce film, il est arrivé en fait dans des conditions particulières, c'est-à-dire qu'au départ, l'idée originale n'est pas de moi, elle est d'un réalisateur qui est français, qui s'appelle Guy Lagache. Et en fait, Guy Lagache n'a pas pu réaliser le film pour des raisons professionnelles, il a dû quitter le projet. Et donc, c'est l'idée du producteur, ça a été son idée à ce producteur de me contacter et de me proposer de réaliser ce film. Mais en fait, c'était en 2018. Et en 2018, je commençais la réalisation d'un autre documentaire qui parle effectivement de la place des femmes noires sur les écrans à travers trois exemples, l'exemple français, les États-Unis et le Brésil. Et donc, comme j'étais déjà embarquée dans la préparation de ce film-là, quand on m'a proposé de parler dans un autre film documentaire du réchauffement climatique et du manque d'eau, au début, j'ai failli dire non, parce que je me disais que ça allait être vraiment trop compliqué de faire deux films de front. Et en réalité, moi je suis originaire du Mali et du Sénégal, j'ai grandi en France et j'ai un attachement très profond pour mes origines ouest-africaines et notamment sahéliennes. Et c'est ça qui m'a motivée, c'est que je me suis dit en fait, il y a aujourd'hui dans la bande sahélienne des populations qui sont vraiment prises par le manque d'eau de façon chronique et qui n'ont pas forcément accès à des moyens de communication réels sur ces questions-là. Et moi, en tant qu'enfant de la diaspora noire, de la diaspora africaine, je me suis dit que c'était presque de l'ordre de mon devoir d'accepter cette proposition de faire ce film et de profiter de la plateforme dont je dispose en tant qu'actrice pour que ces personnes qui sont sans voix soient entendues. Et voilà, c'est comme ça que l'aventure du film a commencé. Et pour moi, la relation avec le thème de la justice raciale, comme vous le disiez, cette relation, elle est très directe parce que pour moi, il s'agit vraiment d'égalité face à la justice sociale, mais aussi d'égalité face à la justice climatique, parce que le climat, le dérèglement du climat n'est pas une fatalité et ça ne vient pas de nulle part. C'est vraiment le fruit des pratiques humaine, notamment dans les pays très pollueurs qui sont en majorité des pays occidentaux. Et cette pollution mondiale a un impact très fort sur des populations qui, elles, ne polluent pas, notamment dans le Sahel.
Merci, très bien dit. J'ai une question d'une collaboratrice. Vous avez beaucoup d'admiratrices ici. Donc, une qui pose cette question, il dit, vous parlez dans votre livre « Noir n'est pas mon métier ». Vous en parlez dans Noir n'est pas mon métier. Lorsqu'on est une comédienne noire, on vous propose souvent des rôles stéréotypés. Est-ce que c'est l'une des raisons pour laquelle vous avez décidé de réaliser votre propre film Marcher sur l'eau? Ça, c'est une question de Oumou.
Merci Oumou pour cette question. Alors, il faut savoir que déjà au tout début de mon parcours, il y a 25 ans, en commençant à devenir actrice, j'avais déjà le souhait de raconter des histoires en tant que réalisatrice. Donc pour moi, c'est vraiment un vieux rêve qui se concrétise. Et effectivement, ce vieux rêve, il a aussi été porté par le fait que parfois, je trouvais que les rôles qu'on proposait aux femmes noires étaient vraiment, alors soit carrément dégradants, soit vraiment insuffisants. Et aujourd'hui, je dirais que c'est le mélange de tout ça. C'est à la fois le rêve d'être la personne qui raconte l'histoire, qui choisit le sujet, qui choisit le point de vue, qui choisit les axes de caméra, la composition des plans, la lumière, tout. Et c'est aussi le fait de pouvoir s'émanciper d'une situation et de se dire ben voilà, aujourd'hui j'ai une corde de plus à mon arc. Pour l'instant, j'ai réalisé 2 documentaires et bientôt je vais passer à la fiction. Peut-être que je jouerai dans mes propres films, mais j'ai surtout, moi, envie de diriger des acteurs, des actrices que j'admire, qui me font rêver, qui m'inspirent, et de, voilà, de prendre un peu les rênes.
La question de, justement, restons sur le documentaire, là, je l'ai suivi hier, hein, j'ai regardé tout le documentaire, et ce qui m'a frappé, c'est la présence féminine dans ce documentaire, là. Il y a la jeune Oulaye de 14 ans qui est un peu l'héroïne du documentaire. Sa tante, Madame Ouri, c'est grâce à elle que le village a pu obtenir la pompe d'eau. Là.
Oui.
Les femmes prennent la parole lors des réunions publiques dans le village. Est-ce que c'est un choix, alors qu'on est dans une société souvent patriarcale où les femmes ont peu de place, est-ce que c'est un choix artistique que vous avez fait de donner davantage de place aux femmes dans ce documentaire?
Oui, en arrivant dans le village, j'ai vraiment discuté avec les femmes en leur demandant d'abord quelles étaient les difficultés qu'elles rencontraient, quels étaient leurs souhaits pour leurs enfants, quels étaient leurs rêves d'avenir. Et je leur ai dit, alors, il y a cette caméra, on va raconter la vie dans le village de Tatiste, et je veux vraiment donner une place aux femmes. Est-ce que vous êtes prêtes à prendre la parole? Et elles ont dit tout de suite oui. Allô?
Oui.
Ah oui, je ne savais pas si vous m'entendiez.
On vous attendait.
Elles ont vraiment accepté tout de suite. Okay. Parce que je pense que la condition féminine dans le Sahel, et notamment au sein des populations peu lwodabé, est vraiment bouleversée par la question du réchauffement climatique. Il faut savoir que dans une région comme l'Azawak, au nord du Niger, il y a 15 ou 20 ans, la saison des pluies durait 5 mois par an. Alors, pendant 3 mois, il y avait des vraies pluies, et puis entre le 4e et le 5e mois, les pluies devenaient plus fines, plus éparses, etc. Mais aujourd'hui, en raison du réchauffement climatique, la saison des pluies dure 2 mois à 2 mois et demi. Donc évidemment, les réserves en eau potable se sont drastiquement amenuisées. Il n'y a pas assez d'eau et les gens manquent d'eau potable tout au long de l'année quasiment. Donc les femmes qui tiennent les foyers, qui éduquent les enfants, qui s'occupent de leur santé, qui s'occupent de leur nourriture, elles sont vraiment en première ligne. Et comme tous les autres membres de la famille, elles sont aussi de corvée d'eau. Elles font les allers-retours jusqu'au puits, à longueur de journée, à longueur d'année. Donc, elles sont vraiment quasiment, je pourrais dire, avec les enfants, les premières victimes du réchauffement climatique. L'autre chose, c'est que les peu lwodabé, qui sont des nomades à l'origine, avaient pour habitude, avec leurs troupeaux, en famille, de transhumer, d'aller d'un point à un autre, etc. Et aujourd'hui, le manque d'eau fait que les pâturages sont inexistants quasiment. Donc c'est devenu très compliqué de garder un mode de vie nomade. Donc les gens sont en train de se sédentariser. Et les hommes, qui ne sont évidemment pas épargnés par le réchauffement climatique, sont en charge des troupeaux, mais alors qu'avant ils partaient en famille, aujourd'hui ils partent seuls. Pourquoi? Parce que l'insécurité dans le Niger, mais ce n'est pas que l'insécurité face au djihadisme, hein, c'est aussi l'insécurité qui est due au fait que les ressources en eau sont trop maigres, que les pâturages et les endroits qui sont verts où les animaux peuvent se nourrir sont en train de se rétrécir. Et du coup, il y a des conflits entre les sédentaires qui sont des cultivateurs et les nomades qui sont des éleveurs. Donc les hommes sont obligés de partir seuls s'ils ne veulent pas exposer leur famille à différents dangers. Et ils parcourent des centaines et des centaines de kilomètres pour trouver des pâturages. Et les mères partent seules, enfin en petits groupes entre femmes, dans les capitales des pays voisins pour trouver des petits boulots. Ce qui fait que les enfants restent souvent seuls dans les villages, avec très peu d'adultes. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans ce film, c'est comment le réchauffement climatique et le manque d'eau font exploser les cellules familiales, font exploser le tissu social entre les individus, dans les communautés, et comment les jeunes filles se retrouvent à la tête de leur famille. Et dans le film, Boula, il y a 14 ans, et c'est elle qui devient le chef de famille parce que ses parents ne sont pas là, tout simplement. Et ça, je voulais le montrer parce que je pense que vu d'Occident ou même de capitales de pays africains, on ne se rend pas compte de l'effet absolument dramatique du manque d'eau et du réchauffement climatique sur les individus.
Et le documentaire le montre très bien, comment l'absence d'eau désagrège totalement la vie de ce village. Là, en fait, c'est un féerique d'éleveur. La maman, comme vous le dites, la maman de Oulaye qui va aller à... Elle quitte le Niger pour aller au Togo, au Nigeria, pour vendre des produits sur le marché. Son papa qui s'en va pour faire perdre le cheptel pendant 10 mois. Et les enfants qui sont restés seuls, très jeunes, sont matures. Et même l'école, par absence d'eau, bah, l'école est délabrée. On n'a pas d'eau pour fabriquer les briques afin de rénover l'école. Fait qu'on Absolument. Voit ici que l'absence d'eau désagrège tout le tissu social de ce petit village-là. Et même pour... Même les ânes sont épuisés de tirer l'eau dans le puits hein, qui se situe à plusieurs kilomètres du féerique. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette expérience-là? Parce que vous venez de le décrire, il y a beaucoup d'épreuves quand même dans ce village-là. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans la réalisation de ce documentaire?
Bon, je dirais que les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est vraiment des difficultés mineures par rapport à ce que les gens vivent. C'est-à-dire que on peut être, nous, un peu fatigués, mais bon, on sait que le tournage va durer à chaque fois une dizaine de jours et qu'on va revenir 2 ou 3 mois après. Ça, c'est vraiment... Nos aléas de tournage, je trouve, ne sont rien comparés aux gens qu'on filme.
Vous avez tourné dans un contexte de djihadisme aussi, quand même.
Pas tout à fait. C'est-à-dire que la menace n'est jamais... inexistante, malheureusement. Mais dans l'endroit où on était, la menace n'était pas immédiate. Sinon, de toute façon, honnêtement, je vous dis la vérité, je n'y serais pas allée. Okay. Moi, je ne suis vraiment pas une tête brûlée. je ne vais pas au-devant des dangers comme ça. Je suis mère de famille. J'ai tout simplement pas du tout envie de prendre des risques inconsidérés. En revanche, c'est dans cette zone, dans cette bande sahélienne, qu'effectivement, il y a des endroits dans lesquels il y a des dangers. Et en termes d'assurance, on était obligé, pour être assuré hein, et pour avoir donc le droit d'aller tourner, obligé, et aussi parce que le gouvernement du Niger et les services de l'État en charge de la sécurité ont exigé qu'on ait donc une escorte militaire et policière en permanence. Mais à part le fait que des fois j'y pensais et que je me disais, oh là là, s'ils arrivent là, qui a 100 motos comme ils le font parfois hein, avec des gars armés de Kalachnikov, je vois pas comment on pourra s'en sortir, mais c'était plus psychologique qu'autre chose, parce qu'en réalité il y avait encore une fois pas de danger immédiat et ce qui comptait beaucoup pour nous c'était ce que le film allait pouvoir générer en termes de prise de conscience, parce que le Niger est un pays qui est extrêmement touché par le manque d'eau, vraiment de façon très difficile. Et donc, ce film, il a été aussi fait pour que les autorités nigériennes qui se battent pour obtenir des fonds, pour mettre en place une politique d'accès à l'eau dans le plus d'endroits possible sur le territoire, puissent se servir de ce film-là comme outil de plaidoyer. Le film, il a été fait pour les spectatrices et spectateurs, pour leur cœur et leur esprit de citoyen. Et il a été aussi fait pour toutes les personnes qui travaillent sur ces questions-là et qui peuvent s'en servir et organiser des levées de fonds ou tout simplement des projections pour faire grandir cette cause internationale. Aujourd'hui, 2 milliards, je répète le chiffre, 2 milliards d'êtres humains n'ont pas accès à l'eau potable sur la planète. Nous sommes environ 7 à 8 milliards. 2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Ce que ça veut dire, c'est que la mortalité infantile dans ces endroits-là est très, très grande. Les enfants de moins de 5 ans qui vont mourir d'une infection, quelle qu'elle soit, et ce chiffre-là est très important. Ce qui veut dire aussi que les femmes en couche ou lors de l'accouchement sont exposés. Ce qui veut dire que le taux de maladies parasitaires est aussi très important. Ce qui veut dire que la nourriture aussi est contaminée. Ce qui veut dire que le temps des gens, tous les jours, est occupé à aller chercher de l'eau. Donc, cette question, aujourd'hui, elle concerne 2 milliards d'êtres humains. En 2050, si on ne renverse pas la tendance, c'est 5 milliards d'êtres humains qui vont être concernés. Donc, on peut imaginer le nombre de conflits, ou même carrément de guerres, de déplacements, de réfugiés climatiques, et tout simplement le nombre de populations qui seront exposées à une très grande misère si on ne change pas cette donnée. Donc pour moi, ce film, il est fait pour ça, et j'ai tenu à en faire un vrai film cinématographique, avec une belle image, avec des émotions très fortes, pour que les gens ne se sentent pas coupables, mais se sentent concernés. Et la limite, elle est très fine.
Ouais. Et sur le chiffre que vous avancez, là, sur les 2,2 milliards d'individus qui manquent d'accès à l'eau potable, la moitié se situe en Afrique. Donc l'enjeu est très criant en Afrique. Et comme vous le montrez très bien dans le documentaire, les femmes sont particulièrement affectées. Moi, ça m'a rappelé, moi je viens du Tchad, puis ça m'a rappelé cette histoire qu'on m'a racontée, un pays sahélien aussi. Donc, au centre du Tchad, les femmes parcourent 10 km par jour pour aller chercher de l'eau. Bah, elles portent l'eau sur leur tête. Puis toutes les femmes de cette région sont chauves. Hein. À force de porter l'eau sur la tête, hein, les femmes deviennent chauves. Hein. Chaque jour,
ça fait trop mal.
Donc, cette question de changement climatique, ce n'est pas juste une question d'environnement vert. Là. Ça crée les inégalités entre les sexes aussi. Parce que c'est les femmes qui sont les plus exposées, etc. Mais tout n'est pas sombre dans ce documentaire-là. Si l'absence d'eau est source de tristesse, la présence de l'eau ramène la joie. On le voit dans le documentaire. Il y a bien sûr la pompe qui permet l'accès durable à l'eau potable, mais même l'eau de pluie saisonnière ramène la joie. Les enfants qui patrouillent dans l'étang Boueuse, cet étang qui est le lieu de réunion des jeunes, non seulement des jeunes Peuls, mais des jeunes Touaregs aussi, qui cohabitent. Et à noter que, moi, ce qui m'a frappé, c'est la seule fois où on voit ces jeunes des deux ethnies là, se réunir autour de l'eau, n'est-ce pas ? La symbolique est importante. Ouais. Ensuite, la beauté du paysage. Quand l'eau verte revient, le paysage est magnifique avec les plans de drones là, qui sont vraiment magnifiques. Donc, il y a de l'espoir pour peu qu'on y mette de la volonté et des moyens, puisque l'on marche sur l'eau. Là. Dans le fond, c'est désertique, mais en dessous, là, à 200 mètres, il y a de l'eau. Donc, c'est une question de volonté et de moyens politiques aussi.
Absolument. C'est une question de volonté politique. Et c'est une question de volonté politique internationale. C'est-à-dire que les pays comme le Niger qui subissent les effets du réchauffement, qui subissent la disparition ou la disparition d'une partie de leur accès en eau, ne peuvent pas supporter seuls le poids de ce changement, alors qu'ils ne sont pas responsables directement du changement climatique.
Ouais.
Donc la question politique, elle est au centre et elle est aussi internationale. Elle doit engager les pays au sein des Nations Unies, les pays pollueurs, pour qu'ils reversent une partie de l'argent nécessaire à des pays qui ont besoin de ça pour lutter en installant des infrastructures, en menant des politiques de reverdissement qui demandent des moyens, mais qui sont... On a les techniques, mais c'est ça qui rend vraiment dingue. C'est-à-dire qu'on a les techniques pour reverdir les territoires. On a les techniques pour permettre un accès à l'eau potable. Et je vais vous dire, quand on faisait le film, quand on était en train de le préparer ou même de le fabriquer, on a, avec la production, soutenu l'ONG qui était en charge de la construction du forage. Et donc, moi, j'ai mis vraiment tout ce que j'ai pu en œuvre dans les réseaux que je connais pour aller chercher de l'argent. Et c'était désespérant de constater que cette question du manque d'eau, elle ne soulève pas une indignation telle qu'elle devrait. On va dans des endroits où il y a de l'argent, mais quand je vous dis de l'argent, c'est-à-dire beaucoup d'argent, des multinationales, pour lesquelles franchement donner 50 ou 100 000 euros, c'est rien. Qui vous disent, c'est pas vraiment dans notre politique, on va plutôt aider des jeunes geeks sur le continent africain, qui sont dans les nouvelles technologies, qui font des startups. Très bien. Il faut soutenir ces talents-là, évidemment. Mais que ces multinationales qui ont les moyens de le faire et qui sont parfois des multinationales pollueuses estiment qu'il n'y a pas d'urgence à installer des forages ou à mener des actions en faveur de l'accès à l'eau dans certains endroits comme le Niger. Franchement, Franchement,
c'est révoltant. Hein.
C'est absolument révoltant. Et on se demande ce qu'ils attendent. Et donc, ce film, il est aussi là pour ça. C'est-à-dire que moi, je suis persuadée que l'audiovisuel, le cinéma, sont des moyens d'accélérer les particules. C'est-à-dire que un sujet que les journalistes vont mettre je ne sais pas combien de temps à mettre en place pour sensibiliser les gens, va d'un seul coup rentrer dans le cœur des gens grâce à un film, parce qu'il y a un phénomène tout simplement d'identification. Donc, je ne prends pas le cinéma pour une baguette magique qui résout tout, hein, pas du tout. Mais je pense qu'on a véritablement un rôle à jouer dans la question de la lutte pour la préservation du climat et de l'environnement, parce qu'on a un outil qui permet d'entrer chez les gens, dans leur cœur, dans leur esprit, de faire réfléchir, d'émouvoir, encore une fois, de permettre un sentiment un phénomène d'identification. Et il faut que les puissants, on ne peut pas demander que aux citoyens de faire des petits gestes quotidiens, ça n'a pas de sens. On sait que la plus grande partie de la pollution mondiale est due aux multinationales. On le sait.
Et d'ailleurs, le rapport du GIEC qui vient de sortir aujourd'hui, beaucoup de pays riches, notamment les États-Unis, ne veulent pas mettre la main dans la poche pour lutter contre le changement climatique. Pourtant, leurs rôles sont clairement établis. Et d'ailleurs, dans le documentaire, dès l'ouverture du documentaire, l'enseignant du village le dit clairement aux élèves. Hein. Il dit les grands responsables du changement climatique sont les pays du Nord, mais que c'est eux ici dans les villages qui subissent les conséquences. Enfin, même déjà, il y a une prise de conscience au niveau local aussi des grandes responsabilités. Revenons à Oulaï. Là. C'est un personnage très attachant. Là. Moi, j'aime beaucoup là, ce personnage là, de votre documentaire. Elle tient très bien son rôle avec beaucoup d'aisance. Avez-vous des projets pour elle en particulier, comme une future Aïssa Maïga?
J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Alors, il faut savoir que le rêve de Oulaï, c'est pas du tout de devenir actrice, c'est de devenir fonctionnaire. D'abord, dans toutes les discussions que j'ai eues avec elle, ce qu'elle voulait, c'est devenir fonctionnaire. En fait, elle veut travailler dans un bureau. Elle voit sa maman et toutes les femmes de sa communauté faire des allers-retours au Nigeria, au Togo, au Bénin, prendre des risques en tant que femme en allant sur les routes comme ça. Elle voit sa maman malheureusement disparaître plusieurs semaines d'affilée, plusieurs fois par an, et revenir avec peu d'argent. Et ce que dit Oulaï, c'est « moi, je veux avoir 4 enfants, 2 garçons, 2 filles ». Elle me dit « je ne veux pas avoir trop d'enfants, parce que sinon, je ne pourrais pas bien m'en occuper. Et moi, je veux que chacun de mes enfants ait une bonne éducation et aille à l'école. Et moi, pour ça, et pour aussi aider ma famille, je veux travailler dans un bureau en tant que fonctionnaire.
Bah, » Pour donner les services publics à son village aussi, peut-être. Parce que les services publics manquent à cet égard.
Oui, c'est pour travailler dans un endroit qui est sédentaire, dans lequel elle ne se met pas en danger, et dans lequel elle a un travail parce qu'elle a eu un diplôme pour le faire, et dans lequel elle gagne décemment sa vie pour subvenir à ses besoins et aux besoins des siens. Donc, moi, je lui avais dit j'avais comme ça une idée, mais c'était une esquisse, c'était pas une vraie idée, hein, un début d'idée de film. Okay. Et bon, pour l'instant, c'est pas. J'ai malheureusement. Enfin,
mais elle joue bien le rôle. Elle joue bien son rôle, en tout cas. Oui. Moi, je l'aime tellement, cette figure-là.
Parce qu'elle joue. En fait, les gens sont les acteurs de leur propre vie. C'est-à-dire qu'ils ne jouent pas la comédie. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment une espèce de mix entre du documentaire pur, entre guillemets, et puis une mise en scène que j'ai choisi de faire pour, à partir du réel, à partir de la réalité de leur vie, permettre aux spectateurs de comprendre en fait quels sont les enjeux, ce que traversent les gens, ce que ça veut dire, comment ils peuvent s'en sortir. Et Oulaï s'est très très vite habituée à la caméra. Elle a vraiment eu confiance en mon regard et on a passé des moments qui étaient magnifiques.
Bah, j'invite nos auditeurs et auditrices à aller regarder ce documentaire qui sera projeté mercredi au Musée de la Civilisation de Québec en présence de Mme Aïssa Maïga, qui n'est plus à présenter. Donc, si vous voulez réserver votre place, il y a 30 places qui restent, je pense. Écrivez au courriel suivant sic.ifdd@francophonie.org. Mme Maïga, est-ce qu'il y a une suite à ce beau documentaire d'une manière ou d'une autre sur la question de l'eau? De votre côté,
tout à fait. Il y a un site qui s'appelle marchersurleau.co et c'est un site qui permet de retrouver beaucoup d'informations sur la question de l'eau telle qu'elle se pose aujourd'hui et telle qu'elle se posera dans les décennies à venir. C'est un site qui permet également de connaître quelles sont les initiatives localement qu'on peut soutenir financièrement ou dans lesquelles on peut même s'investir à titre personnel. C'est un site qui permet aussi aux personnes qui le souhaitent, aux militants notamment du climat, aux gens qui veulent soutenir leur continent, le continent africain, que ce soit leur ou non d'ailleurs, d'organiser des projections du film, des projections débat. Donc la projection, enfin la production permet, elle envoie le film dans les endroits, etc., pour que les gens puissent organiser leurs propres projections. Et c'est aussi un site, marchésurleau.co, qui permet de, si on le souhaite, d'interpeller les Nations Unies pour déclarer la crise de l'eau et que les nations se réunissent autour de cette question climatique essentielle qui est l'accès à l'eau potable. Et donc, il y a tout un tas d'actions comme ça qui sont vraiment dans le sillage du film. Et puis moi, je ne peux pas en parler tout de suite, mais je travaille à certains projets, mais que j'ai envie de structurer d'une façon qui correspond complètement à mes valeurs. Donc, ça prend un petit peu de temps.
Je rappelle que Oumou, notre chroniqueuse littéraire, elle m'a informé tantôt, oui, en parlant de votre documentaire, qu'elle est d'origine, elle est sénégalaise, mais française aussi, comme vous. Elle a créé une ONG qui a creusé à date depuis 2018, je pense, qui a permis de creuser 40 puits au Sénégal. Magnifique, là. Et elle me disait que un puits, ça coûte entre 700 et 1000 pièces, 1000 euros. Fait que je me dis, chacun peut faire sa part, là. Alors, pour finir, parce que j'ai notre invité après, une dernière question. Vous êtes une militante de la cause noire, on l'avait dit. J'ai aussi dit que vous avez beaucoup d'admiratrices ici à Québec. Que pouvez-vous dire aux femmes noires de la ville de Québec qui nous écoutent? Car ici aussi, il n'est pas facile d'être une femme noire. Et je complète avec une question de Oumou, une dernière question de Oumou. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a à faire pour que les femmes noires soient mieux représentées au cinéma? Donc, deux questions. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux femmes noires qui luttent aussi pour leurs droits ici à Québec? Et que faut-il faire pour que les femmes noires soient mieux représentées au cinéma? Ce qui est un de vos sujets de lutte aussi.
Alors, je ne sais pas si je peux donner des conseils, parce que la réalité québécoise, je ne la connais pas forcément en détail. Mais ce que je peux dire d'ores et déjà, c'est à titre personnel d'essayer de rester créatif, de se rapprocher des personnes dont on admire le travail, d'essayer d'écrire soi-même des scénarios, de rester dans une forme de créativité comme ça, de se former, de même dans la formation continue en tant qu'actrice. Et je dirais aussi qu'il faut se rapprocher, soit se réunir, soit se rapprocher des groupes qui militent déjà sur ces questions-là et d'arriver à créer des sortes de synergies pour porter ce sujet et en faire quelque chose d'audible sur la scène publique. Et il y a des initiatives qui existent au Canada dont les intitulés m'échappent un petit peu, mais je pense que ça peut être intéressant de se rapprocher des gens qui sont déjà en train de militer sur ces questions-là. Et après, bon, c'est aussi très difficile de donner des conseils parce que je pense que les conseils sont valables quand ils sont vraiment personnalisés. Mais je dirais que de façon générale, il faut aussi s'entourer, essayer de créer des groupes comme ça avec des gens bienveillants. Des gens bienveillants. Des personnes qui ont vraiment envie de vous voir avancer positivement. Des personnes que vous soutenez aussi dans leurs avancées et avec lesquelles vous vous sentirez moins seul d'en parler, et avec lesquelles vous ne vous sentirez pas jugé. Et je dirais également qu'il faut continuer à nourrir ses rêves. C'est-à-dire qu'il y a ces difficultés, elles existent, il faut en tenir compte, il ne faut pas vivre dans des illusions, mais il y a aussi des illusions positives qui sont les rêves, et qu'il faut vraiment chérir, soigner, parce qu'en général, quand on a voulu faire... Oh là là, il y a un humoriste à côté, hein, je suis désolée.
Il n'y a pas de problème, allez-y.
Mais il faut soigner les désirs qu'on a eus au départ. Pourquoi on a voulu faire ce métier-là? Peut-être qu'il y a des films qui nous ont fait rêver, des acteurs, des actrices qui nous ont fait rêver. Continuer à voir des films, regarder, pas que des films, si on s'intéresse à la photo, à la peinture, enfin, se nourrir, lire et rester sur une lancée positive.
Parfait, mais bien dit. Et puis j'invite celles et ceux, celles, mais aussi ceux qui veulent vous rencontrer, peuvent vous rencontrer mercredi au Musée de la Civilisation lors de la projection de votre film. Ça va passer à 18h. Donc, je rappelle, il faut réserver au préalable.
Mercredi
prochain, ouais. Il faut réserver au préalable à l'adresse suivante, sic.ifdd@francophonie.org. Alors, je rappelle que j'étais avec Madame Aïssa Maïga, très connue pour, parce qu'elle a joué dans plusieurs films comme Il a déjà tes yeux, des films qui nous ont fait rigoler comme Il a déjà tes yeux, Bienvenue à Marly Gaumont, ou des films aussi qui parlent déjà de la question de l'eau à l'époque, hein, Le garçon qui dompta le vent, là, de la question de rural, etc. Avec Madame Maïga a réalisé Marcher sur l'eau qui sera diffusé à Québec mercredi prochain. Merci beaucoup Madame Maïga, ce fut un privilège d'avoir accepté notre invitation. Puis j'espère que nous allons nous voir mercredi prochain au Musée de la Civilisation à Québec.
Avec grand plaisir, merci pour votre invitation.
Compris, au revoir.
Au revoir.
Mesdames et messieurs, vous êtes bien sur CKIA 88.3 FM. Nous avons accusé un gros retard sur notre seconde entrevue compte tenu du retard accusé avec Madame Maïga. Fait que il nous reste une dizaine de minutes, alors on va parler néanmoins de la commémoration du génocide des Tutsis du Rwanda. Et je vous promets qu'on en reparlera la prochaine fois aussi, parce que la commémoration dure tout le mois de septembre, tout le mois d'avril. Alors une petite pause, et puis nous allons accueillir M. Joachim Moutezintare. Brice, une petite pause musicale s'il te plaît, le temps que M. Moutezintare s'installe.
Les dates, je ne les ai pas à mémoire.
On est en onde. Allons-y. Mesdames et messieurs, vous êtes bien sous CKIA 88.3 FM à l'émission Dignité Noire. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet www.ckiafm.org ainsi que sur notre belle page Facebook que nous invitons à liker. Dignité Noire-CKIA-FM. Hein. On est proche là, de 2000 likes. Là. On aime ça avoir beaucoup de likes. Alors, allez liker. Faites liker aussi autour de vous. Alors, on a accusé un petit retard au démarrage là, compte tenu de notre invité qu'on attendait, Mme Aïssa Maïga, parce qu'elle avait une autre activité à la Cinémathèque de Montréal. Fait que, bon, on l'a attendu parce que c'était un infime et ainsi honneur de la recevoir. Moi, je l'adore. Je suis un fan fini de Mme Aïssa Maïga. J'ai regardé beaucoup de ses films là, que je vous invite à regarder aussi, comme Bienvenue à Marly Gaumont, où Il a déjà tes yeux. Il a déjà tes yeux. Tellement rigolo. En fait, un couple de noirs qui adopte un enfant blanc, puis la maman de la femme noire la refuse complètement l'enfant. Fait que vous pouvez aller regarder ça. Bon, ce qui fait qu'on a accusé un petit retard, mais on va rattraper. Grâce à ce qu'il y a, nous permet de déborder un peu 20h, fait que on va prendre du temps pour parler de la commémoration des génocides des Tutsis du Rwanda, parce que c'est un sujet tout aussi important, voire très important. Il ne faut pas l'oublier. Bonsoir, Monsieur Joachim Mutezintare.
Oui, bonsoir, Monsieur.
Vice-président de la communauté rwandaise de Québec. Je vous ai reçu déjà il y a 2 ou 3 ans pour parler de cet événement. Dommage qu'on se retrouve seulement en avril pour en parler, mais c'est important pour nous à Dignité Noire d'entretenir ce devoir de mémoire-là, de ne pas laisser tomber cet événement dans l'oubli. Alors, je rappelle que du 7 avril au 17 juillet 1994, entre 800 000 et 1 million des Tutsis rwandais furent massacrés par les milices Interahamwe et les partisans du gouvernement du président Juvenal Habyarimana. Cette année, donc, 2022, marque la 28e commémoration de ce génocide. Chaque année, la communauté rwandaise de Québec, à l'instar de celle des autres villes, organise des activités de commémoration. Chaque année aussi, Dignité Noire tient à rappeler ce triste épisode de l'histoire de l'Afrique que nous ne devons jamais oublier. Alors, pour en parler, je reçois M. Joachim Mutezintare, donc. Alors, M. Joachim, cette année, la commémoration est placée sur quel thème? Quels sont les enjeux que vous voulez mettre de l'avant cette année?
Je commence d'abord pour vous remercier de votre invitation. Le thème de cette 28e commémoration, c'est mémoire, unité et renouveau.
Qu'est-ce que vous visez à travers ça?
Nous visons, à travers chaque commémoration, de unifier le peuple rwandais, exorciser les démons du génocide pour être capable d'avancer. On regarde vers l'avenir, c'est pour cela qu'on parle de renouveau. Mais aussi, c'est thérapeutique, c'est parce que nous avons des victimes rescapées qui vivent avec des traumatismes. Et ces moments de commémoration, c'est pour eux un espace où ils vont se libérer, montrer au monde leur souffrance, crier leur douleur, qui est finalement entendu parce qu'au moment du génocide, il n'y avait personne qui prêtait attention à ces victimes-là.
J'écoutais un reportage tantôt là, à la radio sur la crise, sur la guerre en Ukraine, puis avec les morts là, de Boutcha, la ville de Boutcha. Puis il y avait un journaliste qui faisait le parallèle. Il dit, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les Russes se sont retirés avant-hier. Puis aujourd'hui, le monde est en émoi parce qu'ils ont vu les images des 300-400 morts. Et ils disaient, à l'époque du Rwanda, on n'avait pas les réseaux sociaux, comme aujourd'hui. Fait que le génocide rwandais, ça se passait en Afrique, on en entendait parler, mais on ne voyait pas les images, donc ça ne faisait pas le même effet. Aujourd'hui, on a vu 400 morts en Ukraine et ça a suscité l'émoi, on veut ouvrir les enquêtes internationales, etc. Donc, comme vous dites là, à l'époque, les victimes criaient, personne ne les entendait. Ouais. N'est-ce pas? Parce qu'il n'y avait pas des réseaux sociaux, on ne voyait pas les images.
J'aimerais rectifier un peu parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais il y a eu des images choquantes.
À la télé, oui. Ouais, il y avait quand même des images à la télé.
Des images très choquantes. Ouais. Et il y avait un silence. Et ce silence que nous avons toujours dénoncé, le silence des voisins, le silence de la communauté internationale.
Un silence voulu, hein? Oui. Un silence voulu parce que tout le monde
politiquement
savait.
Voulu.
Tout le monde savait. Ouais. Moi, j'ai écouté l'interview de Boutros Ghali à l'époque, il était secrétaire général des Nations Unies, et il disait, personne ne peut dire qu'il ne savait pas. Lui, il a dit à tout le monde, à Paris, à Washington, à Ottawa, à Londres, il a dit à tout le monde ce qui se passait, et personne ne voulait savoir. Et d'ailleurs, un documentaire qui était passé l'année dernière sur TV5, la secrétaire aux affaires africaines de Bill Clinton à l'époque, elle disait qu'elle en parlait aux réunions hebdomadaires à la Maison Blanche. Mais ça n'intéressait pas Bill Clinton et tous les autres blancs autour de la table parce qu'ils disaient, ah, les Africains, c'est des sauvages, ils ont l'habitude de se massacrer. Fait que, oui, tu as raison, peut-être que la population civile n'a pas les mêmes ressources en termes de réseaux sociaux pour voir, mais les gens savaient. Ceux qui avaient le pouvoir et ceux qui décidaient savaient. Mais on a voulu fermer les yeux dessus, une sorte d'ignorance blanche. Alors, quel est le contenu de la programmation à Québec cette année? Qu'est-ce que vous avez prévu comme activité?
Comme à chaque année, nous faisons en sorte que nos membres se recueillent. L'objectif principal, d'abord, c'est la transmission de la mémoire. Il faut que nos jeunes puissent comprendre c'est quoi le génocide des Tutsis, c'est quoi la souffrance qu'ont vécu leurs parents. Et nous organisons des événements à partir du 7 avril. Dans la communauté rwandaise à Québec, nous commençons par une vigile déjà le soir du 7 avril. Et puis le 9, nous organisons une célébration eucharistique pour prier aux âmes des victimes. Ensuite, il y aura d'autres séances d'information, de formation, notamment nous invitons des conférenciers. Il y a un conférencier, une dame qui va parler sur la santé mentale, parce que c'est un sujet important, une résultante du génocide. Et les blessures de ça et les traumatismes sont traînés tout le temps, et puis il y a des gens qui vivent malheureusement avec ça. Donc cette conférencière va nous parler de comment vivre avec ces traumatismes-là. Nous aurons le 22, il y aura un autre conférencier principalement axé sur les jeunes, encore une fois pour que les jeunes qui sont nés après le génocide puissent continuer cette mémoire-là en étant bien informés de ce qui s'est réellement passé au Rwanda.
Parce que ça, nous, à Dignité Noire, on tient à souligner ça là, chaque année, mais est-ce que dans votre communauté, après 28 ans, auprès des jeunes, est-ce qu'il y a un genre d'oubli qui s'installe, ou est-ce que les jeunes en sont conscients? Comment fait-on pour garder ce mémoire vivant dans la tête des jeunes, notamment?
C'est un des objectifs des commémorations. Parce que quand nous commémorons, nous transmettons la mémoire et nous informons. Nous informons nos jeunes, nous informons aussi nos concitoyens québécois qui parfois sont confrontés à des discours contradictoires. Nous tenons à leur donner une image juste de ce qui s'est réellement passé. Alors c'est pour cela que pour nous, il faut commémorer chaque année. Comme je vous ai dit, d'après le thème, il y a l'unité aussi. Quand les gens commémorent au Rwanda, il y a des langues qui se délient. Mmh. Il y a des gens qui ont tué, qui ont été punis par les tribunaux Gacaca, qui ont terminé leur peine, qui sont dans la communauté maintenant acceptée, et ils vont témoigner, ils vont éclaircir certaines ombres. Comment ça se fait que les voisins qui étaient amis auparavant, les familles même, il y a eu des meurtres entre les familles, comment cela a-t-il été possible? Alors des gens qui ont trempé dans ces meurtres-là, des fois, leurs langues sont déliées, ils vont parler et expliquer ce qui s'est passé. Tout ça, ça crée l'unité du peuple rwandais. On se dit, ce qui s'est passé, c'est terminé, nous allons regarder en avant. Mais en même temps, nous commémorons pour que cela ne se reproduise jamais. Il ne faut pas que ça tombe dans l'oubli, il ne faut pas que ça soit banalisé. Il faut expliquer d'année en année. Et ça, tout le temps, pour qu'un crime comme un crime de génocide, si vous voyez ce qui s'est passé au Rwanda, vous me parliez tantôt de l'Ukraine, mais au Rwanda, c'est quasiment au moins 10 000 victimes en 100 jours sur un territoire d'à peu près 26 000 km². Alors
ça devient 1 million de victimes.
1 million de victimes pendant 100 jours sur une superficie de 26 000 kilomètres au carré, ça devient très violent.
Ça, tout le monde a vu ça. Tout le monde a vu ça.
C'est pour cela que même sans réseaux sociaux,
personne ne peut dire des images.
Personne ne peut dire qu'il n'a pas vu ça.
Tout à fait. Et restons sur la question de la résilience. Là. Comment fait-on pour... c'est vrai, on va à la commémoration, on veut éviter l'oubli, mais sans tomber dans le ressentiment, bien sûr. Le mois d'avril doit réveiller beaucoup de mauvais souvenirs, j'imagine, c'est certain. Comment vit-on ce mois quand on est un ou une Tutsi qui a vu ses parents tuer ses frères et sœurs découpés à la machette? Comment on vit ça quand on est à Québec, Tutsi survivant? Qu'est-ce que ça ramène en mémoire, et comment vous vivez ça entre vous dans la communauté? Quelle est l'ambiance pendant le mois d'avril? Je rappelle pour les non-Rwandais qui nous écoutent, on ne dit pas, par respect pour les victimes et les survivants, on ne dit pas génocide rwandais. On dit génocide des Tutsis rwandais parce que c'est une catégorie précise qui a été visée, n'est-ce pas? Donc ça, c'est l'élément de langage aussi à dire, parce qu'il y a beaucoup de négationnistes. Hein. Comme tout génocide, il y a toujours beaucoup de discours négationnistes.
Exactement. Et le langage de génocide des Rwandais, c'est un non-sens. Et ça vise à diluer le vrai génocide.
Tout à fait.
Ça vise à lui enlever sa vérité historique. Le génocide ne peut pas être rwandais.
On n'a pas tué des Rwandais, on a tué des Tutsis.
On a tué des Tutsis.
Exactement. Des Tutsis rwandais en particulier.
Bon, c'est ça.
Alors, je veux parler en québécois, là, comment vous dealez avec ça? Le mois d'avril, comment ça se... Moi, j'ai assisté à quelques commémorations, puis les témoignages, ça fait pleurer. Là.
Les témoignages font pleurer, mais permettez-moi d'emprunter des paroles d'une chercheuse rwandaise qui a travaillé sur cette façon de crier, délier sa langue, ouvrir son cœur et faire revenir les souvenirs étouffants pour les exprimer finalement publiquement. Elle dit que lors des commémorations, on assiste à une adhésion à la mémoire collective se traduisant par un mouvement général de la société qui se tourne vers le passé pour lui conférer un sens. Elle dit que l'espace des commémorations apparaît comme un lieu d'accueil des souffrances endurées pendant le génocide, car certaines victimes n'ont pas pu ouvrir la bouche et ont été violées dans le silence imposé par les tueurs. Pendant les commémorations, les silences d'autrefois peuvent devenir des paroles, exprimant à la fois la souffrance et le regret. En revanche, elles deviennent en fin de compte des paroles de réconfort et de protection. Les cris d'autrefois qui n'ont reçu aucun accusé de réception peuvent y être entendus comme témoignages. On peut alors s'exprimer dans les poèmes et les chants. Et en occupant la position d'endeuillé, la victime exprime devant la communauté, durant les commémorations, les cris de douleur qui ont été noyés dans le silence. Ces cris de douleur peuvent enfin voir le jour. C'est pour ça que les commémorations constituent un de ces lieux qui accueillent la souffrance des survivants du génocide telle qu'elle vient, sous la forme qu'il a choisi de présenter. Alors c'est pour vous dire que c'est vrai que les gens, ils vont crier, ils vont être secourus, approchés, consolés, mais en criant, ils se vident le cœur. Et c'est thérapeutique. Ça les aide à pouvoir cheminer finalement, mais une fois seulement, avoir sorti ce cri de douleur qui, pendant le génocide, n'a pas été entendu ni par le voisin, ni par un parent, ni par un ami, ni même pas par la communauté internationale.
Tout à fait. Et j'avais une connaissance à Ottawa, là, et puis rwandais, qui me racontait comment ça s'est passé. Là. Puis moi, à la fin, je lui ai dit, mais est-ce que tu es normal? Il me dit, tu ne peux pas avoir vécu ça puis vivre comme si de rien n'était. La question de la santé mentale, j'aimerais aborder ça avec vous. Là. Est-ce que les survivants aujourd'hui, comment... J'avais suivi un reportage pour le Rwanda. Après le génocide, il y avait beaucoup de soutien psychologique, tout ça. Est-ce que les survivants à Québec, est-ce que c'est un enjeu que vous voyez dans votre communauté? Est-ce qu'il y a des ressources pour appuyer ces personnes-là qui vivent peut-être la question de la santé mentale?
Et maintenant, voici des nouvelles directement pertinentes à votre vie. Les Vendredis autochtones sont de retour au Square Cabot cet été. Ils explorent l'art et la culture autochtone et sensibilisent le public à l'itinérance dans la communauté autochtone de Montréal. Ces événements ont lieu chaque vendredi jusqu'au 19 août, de 13 à 16 heures. Vous pouvez en apprendre plus en visitant la page Facebook appelée Projet Square Cabot. Et le Canadian Foreign Policy Institute organise un webinaire à l'appui des étudiants à l'Université McGill qui sont solidaires avec la Palestine. Le guitariste du groupe musical Pink Floyd, Roger Waters, y sera un orateur invité. L'événement aura lieu le jeudi à 15h. Pour en savoir plus, visitez la page Facebook Canadian Foreign Policy Institute. Et le groupe communautaire Solidarité sans frontières organise une démonstration à l'appui des migrants sans papiers à Montréal et partout au Canada. Les démonstrateurs se rassembleront à la place Émile de Gamelin le dimanche 17 juillet à 14h. Pour plus d'informations, visitez le profil d'Instagram ssf.sab ou le site web solidarityacrossborders.org. Et l'agence de collecte de sang sans but lucratif, Emma Québec, veut que plus de personnes noires donnent de sang. La plupart des Québécois qui souffrent de la drépanocytose et qui ont besoin de transfusions sanguines régulières sont noirs. Il est moins dangereux pour les receveurs réguliers de sang si leurs donneurs ont un profil génétique plutôt similaire à eux. Pour apprendre comment faire un don de sang, visitez hema/quebec.qc.ca. Yeah. Yeah. Yeah.
City gone up, so you better bust. Been in here really one of us, really spilling blood. Everybody tough, till they gotta go and see the judge. Nigga better hush. Remember growing up, all I wanted was to be a thug. Wanted me a plug, to get a little bread. Shoot a couple niggas in the head, still outside. I don't hide from this shit for life. Had to fight for my life, took them hits and strike. If I die for the guys, have my candlelight going up. Like the club, after that go slide. Are you with that? I won't get back. I'm gon' hop out and crack. Are you with that? I want big racks. I'm gon' flock, I'm gon' stack. Are you with that? Won't forget that shit I saw in my past. Are you with that? Like I'm with that. Hope you watching your back. Hope you watching your back. Hope you watching your back. Yeah, whenever I miss those days, visit my crips that lay under the ground, running around. We was them kids that played all in the street, following leads and niggas who lost their ways. Some of them outside still, some of them inside graves. I'm a real beach boy, come ride my wave. Left me with the either or, fill these voids and fill my bank. Blue strips only, you switched on me. Mama told me about you snakes. Keep my shit off safety. You know you can't never be too safe. Are you with that? I won't get back.